aujourd'hui le relativisme du chrétien où moi aussi j'en prends et j'en laisse. Alors tout d'abord, résumé de l'épisode précédent. Nous vivons dans une société relativiste où la vérité se décide par consensus. D'où l'intérêt d'ailleurs d'avoir le maximum, le plus grand consensus possible puisqu'il va être voté. Il n'y a plus d'appui objectif, reste alors celui de la collectivité des consciences, de l'accord des subjectivités. L'éthique, qui est le domaine pratique, se décide par consensus, par vote. Elle reflète alors l'état donné d'une collectivité à un moment. Elle va désigner le meilleur bien possible partagé par le maximum de personnes dans telles conditions historiques. C'est un subjectivisme, mais qui n'est pas individuel, hein, j'ai beaucoup insisté là-dessus, qui au contraire fait tout pour être communautaire, alors que c'est paradoxal d'une certaine manière. Mais c'est sa légitimité d'être communautaire. Ça doit être partagé et imposé. Et du coup, il tend à s'imposer par des lois, qui sont les vecteurs de... Merci beaucoup. D'obligation. Le relativisme peut donc tendre, comme dynamique d'idées, à une dictature. Ce que le pape Benoît XVI appelait la dictature du relativisme. Vous savez, Benoît XVI, il avait un sens des formules. Si vous lisez son interview avec le journaliste allemand Peter Sewald, Lumière du Monde, je crois. C'est vraiment remarquable. Et il y a un condensé de ses idées et des formules éclatantes qu'il a. Je dois dire que Jean-Paul II n'en avait pas d'aussi éclatante. Jean-Paul II, on cite toujours « N'ayez pas peur » parce que c'est la seule qu'on a comme formule. Comme l'art de la formule. Benoît XVI en avait énormément. Et la dictature du relativisme, elle est quand même assez excellente, je dois dire. Alors, en France, comme on est un peuple d'idéologues, chaque fois qu'on fait quelque chose, on l'érige en doctrine et ensuite on le distribue au monde entier. On fait pas les choses de manière pragmatique. Le mariage homosexuel, il est passé en Angleterre au mois de juillet, personne n'en a entendu parler, ça a été tamponné, mais alors en 5 minutes, c'est passé. En France, il y a quand même eu un montage d'idées dans un sens ou dans un autre. Nous sommes un peuple d'idées. Alors évidemment, quand le relativisme devient dictatorial en matière d'idées, on arrive... Ça va comme ça, vous entendez? Pas assez. Ah, là, ben sinon j'ai le micro dans la bouche, c'est Johnny après. C'est ce qu'on appelle la pensée unique. On y est un peu, tout de même. Celle-ci s'impose par les médias. Plus belle la vie, c'est un... cet effroyable feuilleton, c'est un rouleau compresseur de pensée unique, et c'est parfaitement formaté pour l'être, bien entendu. Il y a une représentation quantitative exacte de religion, de race, de sexe, de tendance, de tout. Bon. Donc ça s'impose par les médias, par la culture, et évidemment, et suprêmement, par l'école. Alors vous allez dire, mais pas du tout, moi, la pensée unique, j'y échappe, j'ai mon individualité, j'ai ma personnalité, mon œil. Considérons la mode, les fringues. Une même année, tout le monde est habillé de la même façon, avec les mêmes couleurs, les mêmes formes, les mêmes structures de tissu. Ça peut d'ailleurs être très réussi. Ces années-ci, c'est pas si mal que ça, d'ailleurs. Quand on regarde, en voyant des films anciens, les modes respectives des décennies qui nous ont précédés, il y a des années de plein et des années de creux. Il me semble, je suis pas seul à le penser, donc je l'érige un peu en universel, je sais pas, la mode des années 50-60, enfin des années 50 finissantes, est plutôt élégante. Les premiers James Bond, si vous voulez. La mode des années 60-70 est à peu près voisine de l'effroyable. Les tissus imprimés, les pattes d'eff, les cols pelle à tarte, les couleurs vulgaires, les tissus vulgaires, tout est vulgaire. Les idées vulgaires, enfin tout. C'est vraiment des années de ratage à peu près total. Actuellement, ça peut être plutôt bien. Mais ce qui est intéressant dans le phénomène de mode, c'est que c'est vraiment obligatoire. Vous le savez mieux que moi d'ailleurs, un des graves problèmes éducatifs aujourd'hui chez les enfants, c'est la discrimination par les marques de fringues dans les cours de récréation. À tel point que même Jack Lang, une fois, avait eu l'idée de rétablir la blouse à l'école. C'était pas une mauvaise idée. C'est pour niveler les différences sociales et pourquoi pas. Il l'a pas fait. Bon. Mais c'était pas une mauvaise idée. Aujourd'hui, ça devient un véritable problème. Et je pense à un grand collège catholique parisien qui a décidé tout à fait officiellement d'interdire aux élèves et donc aux parents les vêtements de marque. Très bien. Il y en a qui connaissent, je vois. Mais donc, je ne sache pas que vous échappiez complètement à la mode. On s'y soumet tous. Donc on n'échappe pas à la pensée unique du moment.